prêts, les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine! Oh!
Bonsoir, vous écoutez Radio Pirate, je suis Aéa et je suis très heureux d'animer notre première émission consacrée à l'antiracisme. Avec moi, il y a Elvire à la régie, Missa à la production et nos deux invités, Prisca et Edwin. Nous sommes le 13 novembre, 5 ans après les attentats qui ont coûté la vie à 131 personnes et blessé 413 autres. 5 ans, quelque part, c'était hier. Depuis, l'islamophobie s'est normalisée jusqu'au sommet de l'État, qui s'emballe dans une spirale sécuritaire dont on ne voit plus le bout, et même les enfants ne sont plus à l'abri des suspicions les plus macabres. Aujourd'hui, on va parler d'eux. Voilà. On va parler des enfants racisés dans un pays meurtri et raciste.
Radio.
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 Pirate !
Le 22 octobre dernier, à Poitiers, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El Haïry, rencontrait une centaine de lycéens et de lycéennes venus bénévolement lui apprendre la vie, la vraie vie. La secrétaire d'État, convaincue qu'elle était là pour enseigner et non apprendre, s'est contentée de répéter sa leçon. Et même de chanter pour couvrir les arguments d'une jeunesse trop intelligente et trop fatiguée. L'école est un lieu vibrant de la construction libre, un sanctuaire de la République, hors de l'espace et du temps, a-t-elle martelé. Un sanctuaire hors de l'espace et du temps. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien pas grand-chose en fait. Mais on retrouve bien là les fondements de l'universalisme républicain. Cette obsession de l'abstrait, de l'intemporel, de l'insaisissable, et l'idée saugrenue selon laquelle, pour transformer le réel, il suffirait de fermer les yeux très très fort en récitant des formules magiques. Décidément, les adultes débordent d'imagination et adorent se raconter des histoires.
Arrêtez-moi, j'ai été saucissonné par des jeunes pirates.
Pour cette émission, nous avons invité Prisca, du podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur, et Edwin, ingénieur arrivé dans l'Hexagone à la fin de ses études. Je vous laisse vous présenter, du coup, peut-être Prisca en premier.
Alors oui, bonsoir, je suis Prisca du podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Alors le podcast, en fait, nous le présentons avec une amie, Ulrich, qui n'est pas là ce soir. Donc nous sommes deux amis et nous parlons des problématiques que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes racisés rencontrent tout au long du parcours scolaire. Alors pourquoi Les Enfants du Bruit et de l'Odeur? Ben, en fait, le nom du podcast fait suite au discours prononcé par Jacques Chirac le 19 juin 1991, un discours qu'il avait prononcé à Orléans quand il était encore maire de Paris. Et dans son discours, justement, il disait que le travailleur français, en fait, était, on avait ras-le-bol, en fait, des personnes immigrées. Donc derrière ce discours, on entend tout l'imaginaire avec les stéréotypes, les préjugés, des parents inaptes, des personnes profitant, en fait, des allocations familiales. Et voilà, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé ce podcast.
Ok. Edwin.
Ouais, bonjour à tout le monde. Donc Edwin, je suis effectivement d'origine guadeloupéenne. En fait, initialement, je t'ai envoyé un audio expliquant dans le thème de l'émission de ce soir sur le racisme et sur le fait d'être un enfant racisé dans un pays raciste. Ma particularité, je dirais, c'est juste que j'ai vécu quasiment toute ma vie aux Antilles, donc j'ai vécu jusqu'à mes 21 ans là-bas. Malgré le fait que j'ai vécu aux Antilles, donc a priori avec, on va dire que il n'y avait pas de majorité raciale, il y avait autant de blancs que de métis, que de noirs, que d'indiens et autres. Il y a quand même pas mal de problématiques sur le sujet qui nous touche, tout un imaginaire colonial qui s'impose à nous, et je pense que voilà, ça peut être intéressant comme sujet.
Ok, top. Alors avant de commencer, j'aimerais aussi remercier les personnes qui nous ont aidés à faire cette émission. Donc il y a les autres pirates, bien évidemment. Il y a celles et ceux qui nous ont envoyé leurs témoignages, mais aussi celles et ceux qui n'ont pas osé le faire. Ces témoignages, on va les diffuser au fur et à mesure et on va les commenter. Alors des anecdotes, des agressions, on en a à foison. Plus ou moins violentes, plus ou moins marquantes, à tout âge. En ce qui me concerne, celle que je n'oublierai jamais, c'est cette fois où je rentrais en classe après la récréation. C'était en CM2, j'avais 9 ans. Nicolas m'a lâché, un peu comme ça. Sale arabe, retourne dans ton pays, t'as rien à bouffer. Alors je l'ai giflé de toutes mes forces. L'institutrice m'a attrapé par le col, elle m'a traîné dans le couloir et elle m'a fichu la tête sous un robinet d'eau froide pour me calmer. Je suis retourné en classe trempé et humilié, d'abord par Nicolas, puis par mon institutrice. Plus tard, celle-ci m'a demandé si je continuais à voir un psy, parce que mes sautes d'humeur posaient un vrai problème. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que Nicolas, lui, il posait aucun problème. Pourtant, le racisme, c'est mal. On l'a tous appris à l'école. C'était du sérieux, attention, on faisait des dessins dessus, on faisait des chansons, des spectacles de fin d'année. Alors, Prisca, Edwin, comment se fait-il que nous soyons si nombreux et si nombreuses à avoir vécu ces agressions à l'école, ces injustices? Est-ce que, selon vous, l'école républicaine a échoué dans sa mission antiraciste, si tant est qu'elle en ait effectivement une? Prisca, peut-être, en premier?
Alors, déjà, pour moi, en fait, l'école n'a jamais eu jusqu'à présent une vocation réellement de mission antiraciste. Hein. Quand on connaît l'histoire de l'école, à partir de quel moment elle a été créée, l'histoire par rapport aux colonies, comment en fait l'école est intervenue au sein des colonies, on ne peut pas dire qu'il y a une histoire antiraciste qui est derrière l'école. En plus de ça, on peut voir, hein, les personnes qui sont enseignants, les personnes qui dirigent l'école, ce sont des personnes comme vous et moi qui font partie de cette société. Quand on vit dans une société qui est fondamentalement raciste, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui des tests pour savoir l'état psychologique des enseignants qui vont enseigner aux élèves. Est-ce qu'il y a du racisme? Est-ce qu'ils sont membres du Front National? Surtout quand on sait que beaucoup d'enseignants, en fait, font partie du bord Front National. Je ne dis pas tout, hein, c'est pas ce que je dis. Hein, mais bon, ça existe quand même. Et en plus de ça, on peut dire que l'école fait aussi partie du problème, en fait, hein, parce que dans la branche, quand on parle de racisme systémique aujourd'hui en France, l'école est vecteur, en fait, de ce racisme systémique. Donc, à partir de là, il n'y a jamais eu, pour moi, d'effort de fait pour faire réellement de l'antiracisme à l'école. Surtout que quand on traite du problème du racisme, on voit régulièrement, c'est fait par des personnes qui ne vivent pas le racisme, qui ne sont pas déconstruites, qui ne savent pas exactement de quoi elles parlent, et ça peut finir par parler de racisme anti-blanc.
Okay. Edwin, tu as quelque chose à rajouter ou simplement un commentaire?
Ouais, je dirais que je suis assez d'accord avec Prisca. Moi, je dirais aussi que l'école républicaine, pour moi, elle est à l'image de la République. C'est-à-dire que tout comme elle balaie d'un revers de main les questions des inégalités raciales, qui, voilà, en disant par exemple que la race n'existe pas, on est dans un petit peu dans la même logique. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de... Alors après, moi, c'est un peu particulier vu que j'ai vécu aux Antilles et que voilà, il y a quand même un peu plus de mélange, encore que ça dépend. Mais j'ai vraiment l'impression que l'idée, c'est de mettre des individus de différentes provenances, on va dire, dans un endroit et d'espérer que par un coup de baguette magique, les inégalités raciales disparaissent, alors qu'on sait très très bien que ça ne marche pas comme ça, et que voilà, qu'un enfant sociabilise tout aussi bien aussi grâce à ses parents, et que si effectivement la société est raciste, les parents le seront et les enfants construiront un imaginaire raciste. Je dirais aussi pour ajouter que je suis assez d'accord avec toi, Prisca, pour dire que voilà, en plus la société maintient et perpétue des stéréotypes raciaux, ne serait-ce que par l'enseignement. Donc j'ai fait toute ma scolarité en Guadeloupe. Et moi, je me souviens toujours de quelque chose d'assez marquant. Le cours en première ou en terminale, vous savez, sur la colonisation. Et je me souviendrai toujours du fait que moi, sur le cours sur la colonisation antillais, vivant en Guadeloupe, j'entends la colonisation, c'était bien et que ça nous a permis de construire des routes et des hôpitaux sur le continent africain. J'ai trouvé ça... Enfin, sur le coup, c'était extrêmement violent, j'ai pas réalisé, mais vous voyez, enfin, j'ai 27 ans et ça m'est resté, quoi. Donc voilà.
Okay. C'est un peu, moi ce que j'entends par là, c'est une espèce de propagande, hein, quand même, hein, parce que c'est nier aussi que les pays qui ont été colonisés avaient quand même une histoire, ont existé en fait avant cette colonisation, avant l'esclavage et la colonisation par la suite, et de se dire qu'on avait un mode de vie qui était certes différent. Mais on avait une histoire, la colonie. Enfin, peut-être que les Occidentaux ont découvert ces pays-là, mais on existait déjà avant. Hein. On était là. Il y avait des traditions, il y avait des langues, il y avait voilà. Donc, je pense que le racisme vient aussi de cette méconnaissance et de l'histoire des différents pays. Et la preuve, quand on voit en fait, quand on entend dire à l'école qu'on a construit des routes, je trouve que ça fait partie de ces images véhiculées qu'on a tous entendues pendant des années. La colonisation, il n'y avait rien avant, c'est des gens à sauver. Donc, toute cette propagande, on va dire, continue à nourrir le terreau du racisme.
Ouais, et c'est pas... Parce que je me permets aussi, je suis complètement d'accord avec toi, et surtout que, autant, peut-être dans les années 50-60, on n'avait peut-être pas le... Enfin, et encore, je pense que même ça, c'est un mensonge qu'on se dit. Je voulais dire que peut-être qu'on ne savait pas justement l'histoire des pays africains actuellement, on l'a sait, on sait très très bien quels sont les, enfin, comment s'est construite l'histoire africaine. On sait quelle place occupe l'Afrique dans l'histoire. On sait que, par exemple, c'est comment il s'appelle, l'empereur Moussa Kankan qui a fait que les colons européens sont venus parce que justement il y avait déjà une connaissance de l'Afrique, une connaissance de la richesse qu'il y avait en Afrique. Et c'est ça qui a initié la colonisation, c'est-à-dire que les Européens au XIVe siècle ont entendu parler de Moussa Kankan, qui était un empereur malien, qui avait fait un voyage du Mali jusqu'à la Mecque, je crois que c'était son pèlerinage, et il avait déversé tellement d'or sur son passage que c'est grâce à ça qu'il s'est fait connaître et qu'il a été connu en Europe. On savait du coup qu'il y avait une histoire et ça a fait venir ces Européens. Donc on ne peut pas dire que l'Afrique n'a pas d'histoire. C'est faux. Et on ignore, enfin, on refuse plutôt d'enseigner cette histoire aux gens. Et je trouve ça assez scandaleux en France quand on sait que la France est un pays extrêmement métissé avec des populations de partout. Enfin, voilà, c'était juste ça.
Ok, c'est parfait, hein. N'hésitez pas à réagir entre vous, on est là pour ça. Je propose qu'on continue avec un premier témoignage, celui de Kenza.
Salut, alors je me présente, moi je m'appelle Kenza, et donc pour une anecdote de racisme dans mon enfance où j'ai découvert que j'étais racisée, que j'avais une race, quoi, que je sortais de la normalité. Alors en fait j'étais en 5e, j'avais 12 ans, et j'avais une copine, une très bonne copine à moi qui était une amie proche, et qui était blanche. Et un jour, c'était son anniversaire, du coup elle a invité tout le monde. Puis elle vient me voir et elle me dit « Écoute Kenza, tu vas pas pouvoir venir à mon anniversaire, je peux pas t'inviter, ma mère elle aime pas les Arabes ». Donc voilà, j'étais un peu sous le choc, j'avais 12 ans donc j'étais très jeune. Et j'ai rien dit en fait, parce que j'étais tellement sur le cul de la violence de ça que voilà, même quand j'y pense aujourd'hui encore, même si aujourd'hui j'ai 24 ans, je suis encore... encore un peu sidérée de cette remarque et de la facilité qu'elle a eue à le dire, quoi. Enfin voilà, c'est tout pour moi, pour ma petite anecdote. Bisous.
Bisous Kenza. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand il prend conscience de ça, quand il prend conscience qu'il est l'autre, Prisca?
Je pense que c'est déjà un choc, hein, pour un enfant de se rendre compte en fait que bah, il est l'autre. Alors je n'ai pas entendu en fait réellement le témoignage de Kenza parce que ça n'a pas fonctionné.
Pour te résumer, simplement, Kenza en fait explique qu'elle devait aller à un anniversaire et qu'en fait au dernier moment son ami lui a dit bah finalement tu peux pas venir, ma mère aime pas les Arabes.
Bah je pense que c'est d'une violence, hein, la première fois qu'on se rend compte qu'on n'est pas accepté et puis qu'on est l'autre et que tout le monde est d'accord pour ça, parce que je pense que la première chose qu'on se dit c'est que c'est pas possible et on va demander en fait de l'aide à un adulte, parce qu'en tant qu'enfant on se dit que les adultes sont capables de nous secourir, quoi. Et souvent en fait il y a une espèce d'aberration, enfin de sidération, quand l'enfant se rend compte que l'adulte lui-même fait partie de cette injustice. Et c'est clairement le cas, hein, pour Kenza en fait, hein, c'est un adulte qui lui fait comprendre que non, elle n'est pas comme tout le monde. Donc le fait d'intérioriser par la suite, de vérifier auprès des autres personnes et de se dire, bah voilà, elle va intérioriser en fait ce fait et se construire avec ça. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour un enfant, surtout, ça dépend de l'âge, mais les enfants n'ont pas la maturité pour gérer le racisme, en fait. Mais malgré tout, ils vont devoir faire avec parce qu'ils n'ont pas le choix. Je ne sais pas, en tant qu'adulte, quand vous vivez aujourd'hui des situations de racisme, la première chose, c'est une espèce de sidération. C'est très compliqué de répondre du tac au tac et de comprendre ce qui nous arrive. Donc, imaginez la même chose de la part d'un enfant. Et qu'est-ce que ça laisse aussi comme message aux autres enfants qui sont à côté ? Parce que il ne faut pas oublier que le racisme, en fait, s'attaque avant tout aux personnes racisées, mais ils laissent aussi un message aux personnes non racisées qui sont autour. Ça leur dit, ben voilà, c'est comme ça que tu te comportes en fait avec d'autres personnes. Et ça donne aussi un code, et c'est ainsi aussi que le racisme se transmet au fur et à mesure. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, que ce soit par des dessins animés, que ce soit par des réactions, des non-dits, la façon dont on se comporte, les choses qu'on voit, il y a énormément de choses qui sont racistes. Et c'est comme ça que les enfants, en fait, l'apprennent aussi. Parce qu'on ne n'est pas raciste, on apprend, c'est un comportement social qui s'apprend. Donc, en fait, en tant que racisé, on apprend à trouver sa place au sein de cette société, donc une place de subalterne, pas être accepté partout. Et en plus de ça, en tant qu'enfant non racisé, en tant qu'enfant blanc, on apprend aussi à se comporter vis-à-vis d'autres personnes d'une certaine façon, telle que la société attend en fait qu'on se comporte.
Edwin, peut-être, t'as quelque chose à dire? Tu m'as un peu parlé de ton histoire.
Ouais, alors, première remarque, évidemment, je suis complètement d'accord avec ce que Prisca a dit. Et effectivement, c'est un comportement qu'on apprend. Je dirais que ce sont aussi des dynamiques de domination pour les personnes qui sont racisées et justement qui mettent en place des dynamiques pour les personnes non racisées, d'asseoir leur domination sur le long terme, sur leur vie. On parle souvent du fait que les enfants racisés, de manière générale, auront des syndromes de l'imposteur un peu plus marqués que des enfants non racisés, je pense. C'est vraiment ça part du fait qu'on a l'impression de ne pas avoir sa place, et c'est encore quand on est une femme racisée. Pour la petite anecdote, Kenza, c'est quelqu'un que je connais et pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Elle a vécu des choses qui, à mon sens, sont très difficiles, puisque elle était dans un lycée de mémoire, c'était soit un collège, soit un lycée catho, donc a priori très 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 blanc, enfin sans partir, enfin sans voilà, sans travers.
Démogriffe, ça s'explique.
Voilà. Et c'est voilà, et du coup, je pense qu'elle a vécu des choses très très dures. Moi, je dirais que, alors c'est particulier encore, je ramène mon histoire, mais
bien sûr.
En tant qu'Antillais, le moment où je me suis rendu compte que j'étais autre était quand même très particulier. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai été dans une école catho privée très très blanche. Voilà, j'étais clairement l'un des rares élèves métis dans cette école. Et en fait, la population là-bas était majoritairement blanche et béquée. Donc à savoir, c'est pas exactement la même chose, blanc et béquée. Donc les béquées, pour la petite définition, ce sont les descendants de colons. Qui, selon leurs termes, se reproduisent en race pure. Donc, mettons que une personne blanche arrive de métropole et tombe amoureux ou amoureuse d'un ou d'une béquée. Cette personne ne pourra pas se marier à un béquée parce qu'ils ne veulent pas non plus de métropolitains. Ils se marient vraiment que entre eux. Et donc, du coup, j'étais vraiment complètement à part dans cette école. Enfin, moi, je me sentais à part et je sais que ça m'a fait acquérir des réflexes de détestation de moi-même. C'était assez marqué. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai intériorisé cette violence, que je me suis dit que j'en valais peut-être pas la peine, enfin que j'étais pas assez blanc, que voilà, toute mon histoire personnelle a poussé à ça. Il a fallu que j'attende beaucoup de temps pour pouvoir me dire que même en tant que personne racisée, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être une personne tout simplement, j'ai le droit d'être beau, j'ai le droit de j'ai tout simplement le droit d'être. Je pense que voilà, c'est une histoire qui est un peu particulière en Guadeloupe, on a ça. En métropole, je pense que ça peut être les process et les mécanismes de défense sont différents, mais effectivement, un enfant aura tendance à développer des mécanismes de défense pour pouvoir se prémunir du racisme ambiant.
D'accord. On va en reparler de... Pardon, vas-y. Enfin,
c'est vrai que dans le podcast, on parle justement parce qu'on a reçu plusieurs témoignages. Et c'est étrange parce que c'est toujours la même chose. Hein. On sent que il y a toujours une espèce de détestation de soi. On a parlé par exemple avec Raki Cassie, une psychologue sociale qui est justement spécialisée sur les problématiques liées au racisme. Et elle expliquait très bien lors de cet épisode qu'il y a une espèce de détestation de soi qui se met en place et que c'est aussi des mécanismes de défense en fait. Et qu'il y a des personnes qui vont intégrer tout ça, qui vont vouloir être plus blanc que blanc, hein, c'est ce qu'on dit. Et qui vont eux-mêmes développer, on va dire, en se disant, vont se dénigrer d'autres personnes racisées, vont se dire qu'en fait, elles ne méritent pas d'être aimées, d'exister, qui vont essayer d'effacer leur personne, en fait, tout ce qui pourrait être, en fait, associé aux stéréotypes. Il y a aussi, par exemple, une dépersonnalisation, ne pas être soi-même. Et tout ça, c'est extrêmement épuisant, en fait, pour des enfants. Et des enfants qui vont se construire comme ça, sans jamais pouvoir être eux-mêmes, en se demandant toujours, en fait, est-ce qu'ils vont être catégorisés comme racisés parce qu'ils font ça? Est-ce que parce qu'ils vont parler fort, est-ce qu'ils vont être mis dans des groupes? Parce qu'en fait, derrière ce racisme, il y a aussi le fait de nier l'individualité de chaque personne. Et c'est vrai que c'est un poids énorme pour des enfants. Et se construire avec ça, en fait, mène à énormément de troubles. Alors en France, il n'y a pas beaucoup de statistiques, hein, comme on le sait. Mais par exemple, on voit qu'aux États-Unis, les afro-descendants, en fait, les enfants afro-descendants vont se suicider beaucoup plus que des enfants non racisés. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des choses, on le voit quoi, ça a des conséquences qui peuvent être graves. On voit aussi des personnes qui vont se décolorer la peau, On voit, en fait, mais ça, c'est des personnes racisées en général, hein, qu'on soit, en fait, asiatique, qu'on soit noir, maghrébin, il y a le fait du défrisage, il y a des gens qui vont se faire du mal pour pouvoir changer d'apparence.
Donc, on a parlé d'intériorisation, parfait. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale, mm-hmm. Et ensuite, on continuera sur les nouveaux témoignages et les autres sujets, si ça vous va. De retour sur Radio Pirate. Je vous propose qu'on écoute un nouveau témoignage. Prisca et Edwin, vous êtes toujours avec moi?
Oui, on est là.
Okay. Tout à fait, ouais, je suis là.
Eh bien, c'est parti pour le nouveau témoignage.
Salut la piraterie. Alors, du coup, je viens témoigner suite à l'appel de Aya sur la façon dont j'ai subi le racisme et comment j'ai pris conscience que le racisme existait quand j'étais enfant. Donc, pour tout dire, je suis ce qu'on appelle communément une personne métisse, c'est-à-dire que j'ai un parent blanc et un parent noir. Et je pense que les premières choses que j'ai subies, c'était au sein de ma famille blanche et de mon entourage blanc élargi, c'est-à-dire avec certains amis blancs de mes parents, notamment à l'égard de mon père qui est noir. On lui donnait des surnoms. Il était un peu considéré comme le bon noir, quoi. Donc, on rigolait avec lui, on l'appelait le différent, avec cet accent, évidemment, ce genre de choses. Ensuite, je pense également dans la rue, puisque je crois qu'à l'époque de mes parents, ça n'avait pas l'air d'être si répandu que ça, les couples blancs-noirs. Du coup, on a souvent supposé que j'étais adoptée quand on me voyait avec ma mère, ou d'autres, enfin plein de réflexions de ce type, de la fétichisation aussi, en disant que les métisses étaient les plus belles, ce genre de choses. Beaucoup de sexualisation, notamment avec une chanson qui reprend mon prénom et où on entend de la sexualisation. Enfin, on me chantait tout le temps la chanson Métisse d'Ibiza ou ce genre de choses. Et enfin, une chose qui m'a marquée aussi, c'est un camarade qui m'avait dit qu'il pourrait jamais être mon chéri parce que j'étais un peu trop noire pour lui. Voilà, un peu tout ce qui regroupe ça, mais j'ai jamais vraiment mis de mots dessus avant d'arriver à l'adolescence. Pour moi, c'était quelque chose de diffus et confus.
Diffus et confus. Edwin, est-ce que ce dont parle du coup Missa dans ce témoignage, c'est très exclusif au fait d'être un enfant métisse, mais aussi également du fait d'être une femme? Est-ce que ce sont des choses qui te parlent ou est-ce que tu penses que c'est une expérience qui ne correspond pas tout à fait à la tienne?
Alors, il y a des choses dans le témoignage de Missa qui me parlent. Effectivement, le métissage, puisque moi-même je suis métisse.
Ah, autant pour moi, autant pour moi.
Non, pas de souci. Je suis métisse. Alors, en Guadeloupe, on a toutes sortes de métissages. D'ailleurs, c'est très différent de la métropole. C'est-à-dire que vous avez. Enfin, je ne devrais même pas dire la métropole, d'ailleurs, je devrais plutôt dire la France hexagonale, puisqu'on n'est plus au temps des colonies, c'est fini. Donc, en France hexagonale, il y a une acception des termes noirs, métis, qui est très étrange à mon sens. Ils mettent les gens dans ces catégories, alors que ça ne veut strictement rien dire. En Guadeloupe, en Martinique aussi, je pense, on a une acception du terme qui est un peu plus... métis, c'est un mot qu'on n'utilise quasiment pas, d'ailleurs. Moi, par exemple, on a vraiment on perçoit beaucoup plus les gens dans leurs différences, puisque des gens métissés, il y en a partout. Quand on va aux Antilles, peu importe la personne que vous croisez, ce sera une personne métisse. Et donc voilà, je relate un petit peu à ça, je relate aussi aux situations familiales très compliquées. Alors moi, j'ai pas connu mon père était blanc, enfin il était métis blanc et indien, mais il ressemblait à, voilà, je saurais pas comment le décrire. En hexagone, je pense qu'on le prendrait pour un syrien, je pense. Moi, je sais que ma famille blanche m'a renié, je suis issu d'une fratrie et je suis le seul à ne pas porter le nom de famille de mon père parce que je suis trop noir et voilà, donc du coup par rapport à ça je relate un petit peu à l'expérience de Missa. Après, très clairement, il y a des choses concernant la fétichisation, les choses qu'on entend comme les métisses sont les plus belles, etc., auxquelles je ne peux certainement pas relate, et effectivement ça renvoie à tout l'imaginaire colonial exotisant des femmes noires, mais je pense que peut-être Prisca, tu seras plus à même que moi d'en parler.
Alors déjà, je voulais rebondir sur deux choses, sur le terme métissage, hein, Edoui, dont tu parlais. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais exactement dire, mais déjà, moi, c'est un terme qui me dérange clairement. Parce que quand on parle de métissage, on parle bien, même s'il y a des personnes qui vont dire « Non, moi, je vois tout le monde métisse. » Il y a une arrière-pensée derrière ce mot, avec un degré de lavage du sang, on va dire. Il faut pas oublier d'où ce terme vient. Et de se dire aussi, le métissage, c'est une personne blanche avec une personne noire. Par exemple, un Danois avec un Italien, on parle très rarement de métissage. Donc, il y a déjà quelque chose derrière tout ça qui est un peu dérangeant, parce que en réalité, métissage, pour des gens, c'est une question de couleur de peau, hein, pratiquement. Hein, alors que qu'on peut être noir, clair, noir, des nuances de noir, de toute façon, sans avoir un parent blanc. Et voilà. Et à Madagascar aussi, les personnes ont différentes couleurs. On a des personnes qui sont très claires et qui ne sont pas métisses. Mais en France, j'ai découvert aussi ce terme de métissage, qui parle clairement des personnes noires et des personnes blanches. Et en plus, derrière tout ça, il y a ce côté, avec le colorisme, les personnes les plus claires sont les plus belles, parce que forcément, on a lavé un petit peu le côté noir en elles et en eux. Et que des enfants métis avec des cheveux crépus, par exemple, c'est pareil, c'est pas l'imaginaire qu'on se fait de l'enfant métis avec des cheveux bouclés, une peau claire. Et si on se rapproche des enfants d'Yannick Noah, ce serait encore mieux, quoi. Donc il y a un peu ça derrière, ouais. Derrière le métissage. Après, par rapport à la fétichisation, je pense que c'est pas les mêmes préjugés et stéréotypes, hein, que ça soit que des petits garçons ou des petites filles. Mais en tout cas, derrière tout ça, il y a toujours cette désinfantilisation des enfants, en fait. Ça veut dire qu'une enfant noire très petite, il y aura déjà hypersexualisation de cet enfant. Et un enfant noir, par exemple, il y aura ce côté délinquant de l'enfant, on va dire. Donc, les stéréotypes et les préjugés ne sont pas les mêmes pour un garçon et pour une fille. Fétichisation, je pense qu'en grandissant, à l'adolescence, même les garçons noirs vont être fétichisés avec, justement, en parlant de sexualité, la dimension du sexe, avec aussi des préjugés sur la performance sexuelle. Et il y a tout ça qui se joue aussi. Hein. Pour les filles, bien sûr, il y a des histoires de panthères, de gazelles, animalisation. Et tout ça, ça vient aussi d'un imaginaire colonial. Hein. C'est de se dire que des femmes noires vont être hypersexualisées parce qu'il y avait aussi une espèce de propagande avec des cartes postales, hein, pendant l'époque coloniale où... en France, il y a eu énormément de cartes postales avec des femmes nues, avec des personnes mises dans des positions humiliantes comme objet pour servir en fait l'homme blanc. Et en fait, on a bestialisé aussi la sexualité des personnes racisées. À travers ça, c'est aussi le corps objet, hein, dont on parle, parce qu'il ne faut pas oublier que justement les personnes noires, en fait, fascinaient beaucoup. Et on s'en est servi au niveau de... Enfin, Broca, par exemple, Paul Broca, qui est un neurologue assez connu en France, qui a fait aussi la classification des êtres humains et dont on trouve, en fait, le nom un peu dans tous les amphis, pardon, de France. Hein. Il y a ce côté animalisation, l'être noir comme un objet... Et il y a aussi, par exemple, le père de la gynécologie qui s'est servi en fait du corps des personnes et des femmes noires pour en faire en fait des objets et les utiliser un petit peu comme il le souhaitait, sans anesthésie, faire des découvertes en découpant, en essayant des choses. Donc en fait, il y a vraiment une comment dire ça ? Il y a vraiment un héritage colonial derrière cette fétichisation du corps noir, hein, et du fait aussi qu'il n'y ait pas d'âge en fait chez les personnes racisées. Il y a pas d'enfance, il y a pas d'adolescence, il y a pas de. On est juste des êtres, hein, sans âme, sans périodicité. Sans tout ça, quoi. Donc, ça explique aussi un peu la fétichisation que les femmes racisées rencontrent. Il y a l'orientalisme pour les femmes maghrébines, il y a aussi la même chose pour les femmes asiatiques, mais c'est vraiment un imaginaire colonial, c'est hérité d'un imaginaire colonial.
Par rapport à ça, on a un témoignage, donc le témoignage suivant qui parle aussi de fétichisation et de sexualisation. C'est un témoignage d'une femme d'origine native américaine. Qui soulève des questions intéressantes.
Bonjour, je m'appelle Paola, j'ai 17 ans et je suis née au Guatemala. Donc j'ai sûrement un point de vue différent parce que j'ai été adoptée par une famille blanche et française, mais je pense que certains natifs américains, s'ils m'écoutent, pourront se retrouver sur certains points. Donc, premièrement, j'ai beaucoup souffert de la non-représentation dans les médias. Quand on est jeune, on sait qu'on est différent, on n'est ni noir, ni blanc, ni métis, on est natif américain. Et quand on est jeune, on a besoin de s'identifier à des gens qui nous ressemblent, qui vont nous servir de modèle. Et ça, c'est quelque chose auquel je n'ai pas eu accès. Hein. Bien sûr, il y a Pocahontas, mais c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Vraiment, c'est quelque chose justement qui peut devenir beaucoup trop récurrent. Hein, se faire appeler Pocahontas dans la cour de primaire, bon, ça va bien deux minutes. Quelque chose qui peut être assez frustrant pour un enfant parce que on peut se sentir mal dans notre peau, on peut se sentir différent, rejeté, mis à part à cause de ça, et c'est pas cool. Moi, j'aimerais parler aussi de la sursexualisation des femmes natives américaines. Ça, c'est quelque chose de... Ouais, je trouve ça vraiment dégueulasse, hein, surtout quand c'est adressé à des mineurs. Hein, se faire comparer à certaines actrices porno, vraiment être vu comme un objet de fétiche, hein, à cause de notre... c'est pour certains occidentaux, on est vu comme un espèce de fantasme à cause de nos traits, à cause de nos yeux en amande, à cause de notre peau mate, à cause de nos cheveux, de nos formes. Ça, c'est quelque chose qui peut être vu comme un bout de viande parce que on fait partie d'une certaine ethnie qui est fantasmée par des occidentaux. C'est quelque chose qui est pas forcément très appréciable. J'ai beaucoup d'autres points à aborder, mais bien évidemment, ça serait beaucoup trop long. Il y a beaucoup de choses à rajouter, mais voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est les deux grandes choses qui m'ont le plus marqué en tant que native américaine française.
Alors, le témoignage de Paola soulève des questions liées à la sexualisation, à la sursexualisation, à la fétichisation. On en a parlé à l'instant, mais pose aussi le problème de la représentation, soit parce qu'elle est trop stéréotypée, soit parce qu'elle n'existe tout simplement pas. Et j'aimerais vous demander à vous deux, quel effet cela a, selon vous, sur un enfant, cette impossibilité de se projeter, de s'imaginer, en fin de compte, de s'identifier à quelque chose ou à quelqu'un plutôt qui nous ressemble au moins un peu.
C'est vrai que cette représentation stéréotypée, elle vient d'abord du fait que qui prend la parole, en fait ? Qui a la parole aujourd'hui dans cette société ? On est bien d'accord que c'est que des personnes blanches dans la majorité. Donc forcément, hein, y a un imaginaire qui va derrière, c'est toujours la même chose. Il y a très peu, les personnes racisées n'ont pas le droit à la parole, n'ont pas le droit de s'exprimer et n'ont pas le droit d'être dans la sphère publique en réalité. Et on le voit d'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dernièrement avec la rencontre avec les étudiants. Voilà, c'est de se dire que quand les personnes prennent la parole, on leur dit tout de suite « stop, là, vous allez trop loin, là, c'est pas possible, là, vous n'allez pas dans le discours qu'on souhaite que vous allez ». Donc, en réalité, que ce soit dans les films, dans les reportages, à la radio, quand on parle de racisme, dans les médias mainstream, dans les livres, partout, il n'y a aucune représentation, ou très peu, de personnes racisées faites par elles-mêmes. Donc il n'y a aucune place et le peu de place qu'il y a, eh ben elle est contrôlée et elle doit aller dans un même sens. Il n'y a pas la possibilité d'avoir plusieurs voix puisqu'en fait il n'y a qu'une possibilité d'être racisé aujourd'hui. Et si ça ne correspond pas à ce qu'on attend dans les stéréotypes, eh ben ça ne passe pas. Donc c'est la raison pour laquelle aussi il n'y a qu'un discours. Donc le discours qu'on va avoir c'est Kirikou. Donc un enfant noir pieds nus au fin fond de la savane, on a des imaginaires toujours stéréotypés faits par des personnes blanches. Je pense que la personne qui a fait Kirikou n'est pas racisée et ne vient pas d'un pays d'Afrique. Donc il y a tout un imaginaire et un espèce de flou derrière tout ça. Donc à partir de là, forcément, il y a énormément de stéréotypes qui viennent derrière. Et qu'est-ce que ça en renvoie en fait aux enfants racisés ? C'est de leur dire, ben en fait, toi, tu n'as pas le droit, tu n'existes pas. Il n'y a pas de place pour toi, tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas être dans la création, tu ne peux pas faire ça. Donc, en fait, on réduit réellement le champ des possibles pour les enfants racisés. Et on leur dit bien où est leur place et jusqu'à où ils peuvent aller. C'est vraiment réfreindre et restreindre. Et pour les personnes non racisées, c'est la même chose. C'est leur dire, en fait, encore une fois, je reviens à ça, la place est pour vous. Vous avez la connaissance, vous avez le savoir, vous avez la parole, vous pouvez monopoliser la parole. Du coup, ça donne des personnes qui s'expriment sur tout et sur n'importe quoi sans aucune connaissance. Rendez-vous bien compte qu'aujourd'hui, en France, en 2020, on a des personnes blanches qui n'ont été jamais dans les 54 pays d'Afrique, qui sont spécialistes de l'Afrique. Un continent qui est 10 fois plus grand que l'Europe. Il y a des gens qui sont assis dans leur canapé et qui vous racontent l'histoire de l'Afrique. Et quand des personnes de ces pays-là parlent, ils leur disent « Mais non. C'est quand même un… » Enfin, voyez-vous, est-ce que vous imaginez, 2 secondes, une personne à Madagascar n'ayant jamais mis les pieds à Madagascar, vous apprendre l'histoire, en France, pardon, vous apprendre l'histoire de France. Et allons plus loin, vous apprendre l'histoire de l'Occident. Parce que là, on ne parle même pas de l'Europe, parce que… L'Afrique, comme je vous disais, est 10 fois plus grand que l'Europe. Rien que ça. C'est de se dire, en fait, bah, ça donne à des personnes la légitimité de raconter tout et n'importe quoi. De dire, le racisme, c'est ainsi. Les pays, c'est comme ça. L'histoire, c'est ainsi. Mais des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Ils n'ont peut-être même jamais ouvert de livre, ou peut-être un seul, ou peut-être 2. Allez, je vais être gentille, 10. Mais ils n'ont en réalité aucune connaissance. Et tout le monde les valide. Tout le monde les écoute, parce que la parole blanche est une parole d'or. La parole blanche est celle qui est écoutée, qui est normale, qui est parole d'expert aujourd'hui. Une personne racisée ne peut pas s'exprimer, on va remettre en compte sa connaissance, on va remettre en compte son expérience, ses ressentis, et on va lui dire que non, c'est pas possible. Donc en fait, ça dit tout ça. Pour moi aujourd'hui, le fait de la non-présence des personnes racisées dans une société comme la France, ça laisse ce message-là. Et la preuve, hein, on le voit tous les jours, des personnes qui s'expriment, toujours les mêmes, et qui ne peuvent pas être remises en cause, qui ne peuvent pas se remettre en question, parce qu'ils estiment que la parole leur appartient et que seuls eux ont la raison et la vérité.
Alors pour confirmer du coup effectivement la question que tout le monde s'est posée notamment dans le chat, effectivement Kirikou n'a pas été réalisé par une personne racisée, ça a été le film d'animation a été réalisé par Michel Oslo qui est un animateur français blanc. Voilà. Ce que tu as dit par rapport au fait que par rapport au fait ce que tu as dit sur le fait que la parole des blancs avait une parole d'or, ça me rappelle quelque chose que tu m'as dit Edwin hier, un dicton. Est-ce que tu vois duquel je parle?
Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est un dicton, il me semble, soit sénégalais, soit camerounais, qui dit Dieu est grand, mais blanc n'est pas petit. Donc c'est un dicton que j'avais entendu sur un témoignage justement d'un artiste qui témoignait de ce fait et qui témoignait de la présence entre guillemets blanche dans les imaginaires, même sur le continent africain. J'aimerais juste dire que je suis complètement d'accord avec tout ce que Prisca a dit. Pour revenir au témoignage de Paola, enfin, je trouve ça aussi extrêmement intéressant qu'on entende une personne native américaine, parce que c'est des témoignages qu'on entend peu, et effectivement, je vois bien venir tout l'imaginaire horrible lié à Pocahontas et autres. Aussi, j'aime bien le fait que tu parles de la dualité, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle de nos points de vue de racisés, et justement, à quel point on se silencie à cause de ça. Mais c'est important de parler du fait que si on se silencie, c'est bien pour que d'autres puissent parler plus fort et parler à notre place, y compris voilà, les Blancs. Ça revient un petit peu à ça, c'est-à-dire que voilà, dans notre imaginaire est blanchi, et comme le disait Prisca juste avant, il y a le fait que la parole blanche soit une parole d'or. On peut le voir justement par rapport à la manière dont l'histoire est racontée. Donc, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de Moussa Kankan, bah, pourquoi on n'en entend pas parler alors qu'il y a vraiment toute une histoire africaine qu'il serait bon de raconter, qu'il serait vraiment intéressant de comprendre pour comprendre justement le monde tel qu'il est. Parce qu'on ne peut pas exclure le récit des Africains. Si on a envie de comprendre le monde tel qu'il se présente. Tout ça, ça me fait penser aussi à, donc pour compléter et peut-être finir, mais ça me fait penser aussi voilà, sur la parole blanche et parole d'or. Il y a eu tout le débat récemment avec le bon vieux Pascal Blanchard, qui, si je pense... Enfin, Pascal Blanchard, bon, je pense que tout le monde voit qui c'est un anthropologue qui s'est spécialisé sur les questions, historien anthropologue qui s'est spécialisé sur les questions de l'Afrique, de la colonisation. Il a posté toutes sortes de choses, il a écrit un grand nombre de choses. Il est critiqué pour plein d'aspects, notamment lorsqu'il a posté son livre Sexe, race et colonie, où il a fait pour moi du voyeurisme un petit peu. Bon, alors après, ça. C'est un débat, hein. Il y a un débat sur ce bouquin, mais voilà. Bon vieux Pascal Blanchard, qui a posté qui a fait son dernier reportage sur France 3, il me semble, sur les décolonisations. Et voilà, alors je pense que c'est utile de parler de ça, hein, surtout en France. Mais il y a Léonora Mialo qui a réagi à son documentaire en lui disant bah ce serait bien que ce soit les personnes concernées, enfin c'est-à-dire les Africains qui fassent leur propre histoire, et là tu te réappropries encore l'histoire des gens, enfin c'est pas la première fois et c'est vrai que c'est assez pénible, et la parole de cette personne est considérée comme parole d'or. Donc oui, voilà, tout ça pour dire que je suis complètement d'accord avec ça et qu'il faudrait réfléchir à nos imaginaires, comment ils se construisent un petit peu par la blancheur, et justement, au fur et à mesure, déconstruire ça.
Merci à vous deux. L'école est un sanctuaire, nous dit l'État, ou en tout cas la secrétaire d'État. Sauf quand il s'agit de remplacer les surveillants par des policiers, bien évidemment. L'école est un sanctuaire, donc, mais pas les enfants eux-mêmes. Pas les enfants, parce qu'aujourd'hui, des personnes chargées de leur instruction et de leur sécurité peuvent choisir, et j'insiste, choisir, de les dénoncer à la police pour avoir ri, blagué, pour avoir eu des propos maladroits dans un contexte certes douloureux, mais bref, pour s'être comporté comme des enfants. L'école donc est un sanctuaire, ouais, mais pas les enfants, parce qu'aujourd'hui on peut les tirer du lit à l'aube avec des cagoules et des fusils d'assaut, On peut les emmener au poste et les garder pendant 11 heures pour les interroger. Un enfant de 10 ans, ça fait 1m30 en moyenne. Imaginez la scène. Alors ça nous choque, et pourtant on aurait dû s'en douter. Un pays capable d'enfermer des enfants dans des centres de rétention administrative, au seul crime de n'avoir pas les bons papiers, c'était un pays qui accepte sciemment de les humilier, de les briser. Il y a 2 ans, le défenseur des droits, Jacques Toubon à l'époque, s'est adressé directement au Premier ministre, Édouard Philippe à l'époque, pour signaler que des enfants n'avaient rien à faire dans des lieux d'enfermement. Il y a 1 an, Amnesty International publiait une lettre ouverte aux députés français. Cette lettre donne des chiffres, des noms, des exemples insupportables de maltraitance, médicale notamment. Alors les chiffres sont exacts dans la lettre, mais je vais arrondir, on parle de 38 000 enfants ayant été enfermés depuis 2010, âgés pour la plupart de moins de 6 ans. C'était publié il y a 1 an donc, en demandant aux députés de se mettre au boulot, de faire quelque chose. Il ne s'est rien passé depuis. En fait, si, il s'est passé quelque chose. Il y a de plus en plus d'enfants dans ces centres. Alors, Prisca, Edwin, je ne sais pas si tu as des enfants, ou en tout cas peut-être des petits frères, des neveux, enfin... quelque chose qui peut nous concerner tous, en fait. Comment on fait pour être parent face à ça? Comment on fait pour réagir à cette violence, à ce déchaînement de violence sur les enfants dans un pays qui se réclame quand même, qui aime bien se réclamer civilisé?
Alors, je ne suis pas père. J'avoue que c'est une question que je me pose tous les jours, si jamais un jour je deviens parent. Et c'est vrai que c'est d'une rare violence. Moi, ayant vécu aux Antilles, je n'ai pas eu affaire à ce genre de choses. Mais typiquement, dans le contexte actuel, quand on voit effectivement ce qui se passe, j'ai entendu parler d'une histoire il n'y a pas très longtemps de 2 enfants turcs qui justement auraient dit une bêtise par rapport à... Voilà, mais c'est des enfants, enfin, ils ont dit une bêtise par rapport à Samuel Paty et à cet événement dramatique, et ça a servi de prétexte pour que ces gamins soient isolés de leurs parents pendant 10 heures en garde à vous. Effectivement, en garde à vue pendant 10 heures où ils ont vécu des choses, mais enfin des interrogatoires, mais absolument effarants. Et j'avoue que j'ai pas la réponse à ça. Je ne sais pas comment être parent racisé pour des enfants racisés dans ce pays qui est extrêmement violent. Essayer de justement leur apprendre les codes, mais est-ce une bonne stratégie? Enfin, leur dire qu'ils vont vivre de la violence, j'avoue que je ne sais pas. Et c'est quelque chose qui me questionne beaucoup à titre personnel. Ouais.
Prisca?
Alors, c'est une question assez intéressante. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le podcast, on en parle d'ailleurs régulièrement. C'est le fait de réellement désinfantiliser en fait nos enfants. Donc forcément, hein, ce ne sont pas des enfants. Ils sont remarqués pour ne serait-ce que la moindre bêtise. On les juge pas, on va dire, comme un enfant. Hein. C'est parce que c'est pas n'importe quels enfants hein, qui sont mis en examen, qui vont être épiés. C'est parce qu'il y a toujours cette espèce de soupçon derrière, en fait. On est soupçonné en tant que parents, nos enfants sont soupçonnés. Ils ne vivent pas, ils n'ont pas cette espèce de bienveillance vis-à-vis de nos enfants. Il y a pas ce côté légèreté, on va dire. Vous voyez des enfants racisés dans un parc, ils doivent bien se tenir. Les parents racisés le savent très bien, hein, comment on se comporte aussi avec nos enfants. Pas trop de bruit, ne sautez pas partout, ne jouez pas. Il y a restriction, en fait, de leur liberté de mouvance, de leur liberté d'expression des tout-petits. Ça veut dire que combien d'enfants racisés sont en conseil de discipline, par exemple, pour les mêmes bêtises qu'un enfant blanc? Combien d'enfants racisés vont être désorientés, par exemple, de l'école, vont voir un conseiller d'orientation, va être mis en filière professionnelle, vont être déscolarisés, vont avoir des sanctions plus lourdes pour un même délit, on va dire, pour une même bêtise. Les enfants racisés vont être punis beaucoup plus lourdement parce qu'ils ne sont pas perçus comme des enfants, mais comme des menaces. C'est vrai que en tant que parent, moi, c'est ce que je me... Enfin, déjà, je conseille à chaque parent... racisés ou non racisés, mais qui sont parents d'enfants racisés, d'écrire, de faire des lettres, de pas se laisser faire, parce que c'est aussi un message qu'on porte à nos enfants, de se dire bah voilà, non, ce n'est pas, on n'a pas à accepter, le problème ne vient pas de nous, il y a un réel problème au sein de cette société, il y a un racisme systémique, et qu'en réalité on n'a pas à se sentir coupable, on n'a pas à se sentir dévalorisé, voilà. Donc déjà Il faut donner confiance en nos enfants, leur donner confiance et apprendre à les valoriser, apprendre à justement à leur montrer des livres, des choses, des histoires où ils sont acteurs aussi. Ils peuvent être des héros. Pour moi, c'est aussi que nos enfants apprennent une histoire, l'histoire de leur pays qui est la France, pour ceux qui sont français, mais aussi l'histoire des pays d'origine des parents. Par exemple, on a eu le 11 novembre, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, et on a vu comment en fait les soldats de l'ancienne colonie française ont été totalement invisibilisés pendant cette commémoration. Et ben, c'est aussi l'histoire de la France qu'elle nie et qu'elle enlève. Il y a eu 45 000 malgaches qui sont arrivés en France pendant la Première Guerre mondiale, qui ont construit une route à Strasbourg. Il y a une histoire, en fait, et malgré ça, on efface cette histoire, on efface cette fierté. Quand on parle d'Alexandre Dumas qui est blanchi, quand on parle en fait de chaque personne racisée qui ont contribué à faire ce que la France est aujourd'hui, ça permet aussi aux enfants de se sentir légitimes là où ils sont. Et je pense qu'il faut renforcer et non plus maintenant effacer comme nos parents ont dû faire, pas par choix, par vouloir, le fait de... Ils ont voulu un avenir différent pour nous. Ils se sont, ils ont essayé de faire en sorte qu'on s'intègre. C'est même plus que l'intégration. Ils ont parfois dû effacer une partie de leur culture. Mais qui fait ça en réalité? Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui d'apprendre à nos enfants aussi des choses sur les pays d'origine, la contribution de ces pays en France, de se dire, bah oui, il y a eu 45 000 malgaches qui sont arrivés. On n'est pas tous des tirailleurs sénégalais. D'ailleurs, ces tirailleurs sénégalais, il y a eu en fait des Vietnamiens, il y a eu des Chinois qui sont arrivés, il y a eu des Ivoiriens, il y a eu des Sénégalais, il y a eu des Algériens, il y a eu des Marocains. Et de se dire, en fait, cette histoire qui n'est pas racontée à l'école, à nous aussi de faire des recherches et de la raconter à nos enfants. À nous de montrer du doigt aussi le système, les choses qui ne vont pas à l'école. Par exemple, moi, c'est ce que je disais aujourd'hui, j'ai eu des livres, ma fille a vu des livres sur Madagascar, comme souvent, avec des enfants noirs et des mouches sur la bouche, parce que c'est cette propagande-là que nos enfants ont aussi. Et est-ce qu'ils vont se sentir valorisés quand ils voient, en fait, des enfants pauvres, toujours dans certaines situations, des personnes racisées à sauver? Et bah, moi, je dis à ma fille régulièrement, bah, écoute, quand tu vas dehors, est-ce qu'il y a des personnes SDF? La pauvreté existe partout. Il y a des personnes SDF en bas de la rue. Il y a des enfants qui vivent dehors en France. Il y a voilà. Mais par contre, tu ne verras jamais une seule personne malgache traverser l'océan, faire 12 000 kilomètres pour aller photographier chaque personne pauvre de France pour en faire un livre. C'est pour dire, en fait, la problématique, pour dire qu'est-ce qui est problématique aujourd'hui dans ce pays. Pourquoi des personnes traversent des océans pour aller photographier des personnes racisées pauvres et les mettre en situation et de faire croire en fait que c'est sauver des personnes, faire des choses belles et voilà. En fait, dans ces pays-là, il y a des routes, dans ces pays-là, il y a des écoles, dans ces pays-là, il y a des vies, il y a plein de choses. Et c'est toujours les mêmes images qu'on montre à nos enfants. À nous de changer ce récit, à nous de prendre en main ces récits et d'expliquer les bonnes choses et les mauvaises choses, mais de les expliquer en n'effaçant pas toute une partie. Et pour des enfants qui sont nés ici, de leur expliquer aussi ce qui a été fait en France par des personnes, par leurs arrière-grands-parents peut-être. Et je pense que c'est important de reprendre l'histoire afin de donner confiance en nos enfants.
Merci, merci Prisca, merci Edwin, merci à vous deux d'être venus sur cette émission. Merci pour vos témoignages, merci pour vos paroles très inspirantes. Et je pense que je ne suis pas le seul à le penser et je pense que le chat pourra le confirmer. Avant de se quitter, je vous propose un dernier témoignage, celui de Cyrine, qu'on va écouter ensemble.
En 2015, j'avais une prof de français profondément islamophobe. Elle nous avait retiré de nos lectures Voltaire, Montaigne, Céline, parce que négrophobe, mais voulait absolument nous faire lire le livre de Houellebecq, Soumission. Avec un groupe d'amis, nous avions décidé de nous opposer à la lecture de ce livre, chose qui l'avait fortement énervée. Et pour accepter le fait que nous voulions pas lire ce livre, elle nous avait demandé de lui rendre un devoir où on expliquerait en quoi ce livre est islamophobe. Mais on avait refusé. Cette fois-ci, parce qu'on n'avait pas envie de rendre un devoir en plus. Par la suite, s'enchaînèrent plusieurs remarques islamophobes, dont une qui m'avait particulièrement choquée. À la fin d'un cours, cette prof décide de crier « Je déteste l'islam ». Et, comme bonne pouca française qui se respecte, je suis partie la balancer à mon professeur principal. Mon prof, choqué, me dit qu'il ira discuter avec elle. Je lui fais confiance. S'ensuit un nouveau cours avec cette même professeure, je suis appelée à rester en fin de cours pour discuter. J'appréhende cette confrontation. La sonnerie se déclenche, c'est le moment. Je la rejoins à son bureau, elle fait sortir tout le monde et ferme la porte. Dans les lycées de banlieue, le matériel ne fonctionne jamais. Les volets sont donc bloqués et la lumière ne traverse pas la salle. On est retenu dans l'obscurité. J'ai peur, vraiment. C'était 2015, je savais pertinemment ce qui m'attendait. Et je suis très nerveuse. Un mot de travers de sa part ne pouvait provoquer en moi qu'une réponse encore plus insolente. Elle commence directement en me jetant à la gueule. Alors comme ça, je suis raciste. Entre-temps, elle place son téléphone sur la table, vide, entre nous. Elle se pensait maligne, mais je l'ai vue. Direct, ça a fait tilt dans ma tête, n'affirme rien. Rien du tout. Elle continue, me la répète 5 fois. Je nie. Non, madame, je n'ai jamais dit que vous étiez raciste. En boucle. Je lui explique que son « je déteste l'islam » m'a blessée. Elle me rit au nez. Elle se met à me crier dessus. « Tu peux gâcher ma vie, ma carrière avec ce genre d'accusation. Tu crois vraiment que si j'étais raciste, je serais ici ?» Je ne dis plus rien. J'acquiesce de la tête, par soumission et surtout par peur. Elle finit par s'arrêter dans son long monologue victimaire, me regarde et court ouvrir la porte. Elle me dit « Normalement, un prof n'a pas le droit de s'enfermer avec un élève. Tu notifieras alors qu'au moment où je m'en suis rendu compte, je l'ai ouverte. » J'acquiesce. Je voulais juste quitter la salle et ce semblant de discussion. Des mois s'écoulent, cette prof continue mais finira par cracher la phrase qui la disqualifiera enfin. Encore une fois, elle demande d'avoir en fin de cours 5 garçons non blancs de ma classe. Elle leur dit « Les gars comme vous, ça finit soit livreur à Auchan, soit chez Daesh. » Manque de peau, l'un des gars se doutant de l'énormité qu'elle allait cracher durant cette discussion privée, l'enregistre avec son téléphone. Lors du dernier cours avec cette professeure, elle nous annonce qu'elle quitte l'établissement. Par choix. D'un accord commun avec la direction. Pour elle, pas de remontage de bretelles au rectorat, ni au commissariat. C'est l'école de la République française en 2015. Entre-temps, on attend. On attend une remplaçante de français. À la fin de l'année, on passe tous notre bac de français. Ça aussi, c'est une réalité en banlieue. Vous savez, dans les lycées classés en zone d'éducation prioritaire. Eh bien, on est prioritaire de rien du tout. Prioritaire quand il s'agit de réduire les moyens financiers de ces lycées, c'est tout. On finit par avoir cette remplaçante, sympa. Mais notre retard, comparé aux autres classes, aux autres lycées, est quand même présent. Je finis tout de même par avoir des points en avance et une bonne note à ce bac de français. Et ça, parce qu'une professeure a décidé de voir en moi une élève et non pas une arabe musulmane. Merci.
Le racisme est un système complexe, tentaculaire. Son expression de tous les jours, pourtant, est redoutablement simple. Le racisme, c'est une simplification à l'extrême. Une résumption. C'est le fait de résumer une personne, toute sa complexité, ses compétences, ses sentiments, son intelligence, son expérience et ses aspirations, de résumer tout cela à ses origines, à sa couleur de peau. C'est peut-être bien le plus insupportable d'ailleurs, le fait d'être minimisé, écrasé, réduit, de se voir nier tous les potentiels. Et un enfant dont on nie tous les potentiels, finalement, que lui reste-t-il ? C'était Radio Pirate, et on vous souhaite malgré tout un excellent week-end. Demain, à 21h, nos camarades feront une émission sur le féminisme au Mexique. Quant à nous, on vous retrouve vendredi prochain pour dire qu'on s'en bat pas la race.